Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième entretien et c'est une suite de cette série des clés pour vivre intitulée comme le titre de cet ouvrage, comme la voix des océans quand nous ne savons plus prier par Rosillon du Cerf. C'est un frère dominicain que je reçois, auteur de ce petit livre. Chers auditeurs, je vous conseille la lecture, un livre qui peut être aussi facilement offert en cadeau. Bonjour frère Rémi-Michel Marin-Lamelet.
Bonjour.
Alors c'est une joie de vous accueillir. Hier on évoquait un peu, ça nous a ouvert quelques portes sur la pensée, penser, prier, au fond, penser, prier, vivre le moment présent et puis s'abandonner. C'est un autre épisode, et j'ai presque envie de dire, vous avez une belle petite histoire, c'est bien, on a employé penser, regarder, voilà. Alors, comment on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Ce regard, faut-il aussi qu'il soit purifié, parce qu'il est peut-être abîmé par les écrans. Par cette vie un peu de vitrine, masquée, superflue, où on a besoin aussi de paraître. Est-ce qu'on est toujours vrai devant le regard de celui que l'on rencontre? Et qu'est-ce qui fait que ce regard rend libre? Voilà. Alors il y a un beau programme, mais vous avez peut-être une belle petite anecdote tirée de votre ouvrage que vous pourriez peut-être introduire.
Oui, parce que toute spiritualité s'incarne d'abord dans notre vie, et c'est Dieu lui-même s'incarne pour venir à notre rencontre. Et pour ce chapitre sur le verbe écouter, j'avais dans le cœur une rencontre que j'avais faite au Pérou. J'étais en mission dans la jungle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une longue histoire. Mais il y avait un homme qui, dans ce village où j'ai vécu pendant un an, ramassait les déchets. C'était un homme vraiment à l'écart du village, très seul. Il vivait avec ses chiens et il venait récupérer les déchets à l'internat où j'étais. Et il était très bavard. Et il m'arrivait souvent de l'éviter. Quand l'entendais arriver, je me cachais. Et en plus, il était très sale, il sentait mauvais. Et parfois, je me forçais en me disant, Seigneur, il faut être bon, il faut être gentil. Allez, aujourd'hui, je reste, je l'attends, je lui dis bonjour. Il prend ses mains, il prend mes mains dans les siennes, ses mains qui étaient couvertes de verrues, Et vraiment, moi, je ressentais beaucoup de dégoût. J'avais qu'une hâte, c'était qu'il parte. Et ce jour-là, il m'a dit « Petit père, vous êtes le seul à me regarder comme un humain. » Et là, je me suis dit « Comment c'est possible ? Parce que je ne le regarde pas comme un humain. Je le regarde comme quelqu'un qui vient chercher des déchets et qui va partir. » Et là, j'ai compris que Dieu regardait à travers mon regard. Que cet amour qu'il avait reçu, il venait pas de moi, il venait de plus loin, et que son regard à lui était aussi un regard traversé par l'amour de Dieu qui venait me rehausser, me dire que je pouvais regarder en aimant. Et donc là, il y a eu une rencontre très très forte avec cet homme que je garde toujours dans mes prières, Geronimo, et ça a été le point de départ pour me questionner sur... quand je ne sais plus prier, quand je ne peux plus prier, eh bien, par le regard, je peux être avec Dieu. Je peux être en communion avec lui.
Le regard, un acte de foi, un acte de charité, au fond. C'est un acte d'amour, en fait.
Oui, c'est l'acte de Dieu. En fait, Dieu, dans toute l'Écriture, Dieu nous regarde. Il regarde, il abaisse son regard du ciel vers la terre. Donc, son regard descend jusqu'à nous. Et le regard inverse, c'est Jésus fait homme qui nous regarde depuis d'abord son berceau, depuis les bras de sa mère et puis depuis la croix.
Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Vous mettez Jésus en croix. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut se poser la question, alors ceux qui vous écoutent, on écoute la radio souvent un peu seul. Donc, qui regardons-nous aujourd'hui et vers quoi nous regardons? Qu'est-ce qui nous porte? Ça, c'est peut-être une bonne question.
Oui. Un de mes frères... le frère Nicolas, avait écrit dans un tout petit livre aussi « Si nous ne pouvons plus regarder le ciel, lui, ne cesse jamais de nous contempler. » Et donc, parfois, prier nous coûte, nous épuise. Parfois, regarder nous coûte et nous épuise aussi. Mais il y a ce ciel partout, constamment, qui nous contemple. Non pas seulement qui nous regarde, mais qui nous regarde avec bonté, qui nous trouve beau. Et ce regard, on le retrouve dans le regard de Jésus constamment. Il posa son regard sur lui et il l'aima. Et parfois, les gens qu'il rencontre lui demandent une guérison. Mais parfois, c'est un appel. « Seigneur, pose ton regard sur mon fils qui est malade, par exemple. » Il y a cette intuition dans le cœur de l'homme, de la femme, que le regard de Dieu, ce seul regard-là, peut guérir et peut sauver.
C'est bon de rappeler aussi ce regard. Et dans la Bible, Jésus multiplie aussi ses regards. Au fond, ses regards d'amour. Oui. Ces regards qui viennent restaurer, guérir.
Oui.
Donc un simple regard. Un simple regard peut-il sauver ?
Oui. Oui, oui, je crois. Il y a ce regard dont je vous ai parlé de Geronimo, qui quelque part a participé au salut de mon âme.
J'allais dire, pour vous, c'est un cadeau, c'est un trésor. Vous, oui, jeune prêtre, hein, je ne vous ai pas, j'ai pas informé les auditeurs, mais vous êtes un jeune prêtre ordonné depuis 2 mois, tout juste. Hein. Vous commencez votre ministère sacerdotal. Ces rencontres-là, c'est des rencontres qui sont riches à vie pour vous,
oui,
dans votre cœur de prêtre.
Oui, et il faut les préserver, il faut les garder pour pouvoir y revenir. Et ce que vous me permettez de faire aujourd'hui, pour moi, c'est une grâce de pouvoir réactualiser constamment ce don qui a été fait à un moment et qui se déploie dans le temps.
Alors, puisqu'on parle du regard pendant ces quelques minutes, si on pouvait aller plus loin, prêtre depuis peu, donc oui, jeune prêtre, il y a un défi, il y a un enjeu du regard du prêtre.
Oui.
Parce que il est appelé, il est un autre Christ.
Alors c'est une très très bonne question. Je réponds avec ce qui me vient à l'esprit. D'abord, il y a ce regard lors de la messe où nous regardons tous le corps du Christ élevé et la coupe de son sang élevée. Donc là, il y a un seul regard. Et c'est vraiment, c'est plus moi, c'est le corps du Christ qui est là. Donc il y a l'unification de notre regard. Ensuite, il y a un regard de bonté parce que les gens souvent ont souffert et ont beaucoup de préjugés, se sentent jugés de manière peut-être parfois spontanée et parfois de manière... ils se trompent sur le fait que l'Église puisse les juger dans ce qu'ils vivent. Donc il y a un regard de bonté à avoir qui est un regard d'amour qui nous vient du Christ, qui vient d'au-delà de nous. Et enfin, et là c'est une expérience très très forte, je trouve, à Lourdes, où on confesse beaucoup, c'est qu'il y a une demande d'un regard pour aider à discerner une situation qui est une situation compliquée, dure, de souffrance, de traumatisme. Et là, c'est un regard pour moi de consolation et de dire à la personne, voilà ce que vous venez de confesser, mais en fait, tout est déjà là en vous. Le Seigneur, s'il vous a attiré ici, c'est qu'il a mis en vous cette bonté. Et dans ce que j'entends de ce que vous me dites, il y a déjà les lueurs de charité. Vous me parlez d'orgueil, mais je vois, vous m'avez parlé de telle personne que vous aidez. Donc, c'est d'aider la personne à avoir non seulement un regard clair sur Dieu, mais un regard d'amour sur elle-même. Et là aussi, c'est une grâce immense de pouvoir aider à purifier ce regard-là.
Alors, c'est peut-être tout l'enjeu parfois d'un parcours de vie fait de fragilité, de culpabilité, avoir ce bon regard envers soi-même. Oui. Ça, c'est tout un chemin.
Oui.
Et compliqué.
Compliqué, mais pour cela, la grande chance que j'ai personnellement, c'est la vie conventuelle, la vie religieuse, qu'on peut vivre dans la vie familiale aussi. Ce sont, eh bien, dans la vie quotidienne, on ne peut plus fuir, on ne peut plus se mentir. Et personnellement, mes frères, parfois de manière peut-être un peu ébouriffante, mais m'aident à poser un regard vrai sur moi-même. Et dans nos familles, dans nos amitiés, lorsque quelqu'un peut nous aider non pas seulement enlever la poutre qui est dans notre œil, mais à poser ce regard juste, qui est un regard d'amour et de vérité, qui est un amour de justice et de paix, eh bien, tout s'éclaire.
Et puisqu'on termine sur le regard, hein, on va terminer cet entretien, ça passe trop vite. Quand on parle du regard aussi, il y a aussi ce regard de l'innocent, du petit enfant, de l'émerveillement. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui un besoin d'un passage de Dieu dans nos regards humains pour finalement redécouvrir cet émerveillement de l'enfant et au fond l'émerveillement de la création, oui, et puis de ceux qui nous sont les plus proches.
Oui, 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 mais c'est un regard, bien sûr, de, comme le petit enfant se tourne vers sa mère, de regarder le Seigneur avec cette même simplicité, mais qui n'est pas la naïveté. Je crois que là aussi, dans notre monde, on peut avoir tendance à être naïf, où tant de gens se réfugient dans des dessins animés ou dans des choses pour les enfants, par peur de voir la réalité. Le regard de Dieu, c'est un regard vrai, de justice, c'est-à-dire qu'il voit le bon et qu'il n'est pas naïf sur le mauvais aussi. Mais lorsqu'on sait que Dieu nous regarde en vérité et à quel point ça nous libère et ça nous fait grandir, on peut être amené à poser ce même regard de vraie charité.
Alors au fond, c'est tout un chemin. On peut parler presque d'un chemin aussi de d'un changement de vie, d'une transformation aussi et d'une conversion.
Oui.
Ouais, profonde.
Oui.
À demain, même lieu, même heure.
À demain.
Et merci.
Merci à vous.